Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous. Il est 11h, le Festival d'Avignon se réveille. Nous sommes bien installés dans la cour de l'université pendant une heure. C'est des idées sous les platanes. Deuxième semaine de nos retrouvailles quotidiennes sous les platanes de la Faculté des Sciences d'Avignon pour cette heure que nous passons en bordure du festival. Je dis en bordure parce que chaque jour on y parle théâtre, mais aussi littérature, histoire, politique, science, diplomatie. Et ce qui tient tout cela, c'est le texte, tous les textes qu'on lit, qu'on écrit, qu'on représente, mais les textes qu'on met en forme, qu'on négocie, qu'on traduit, les textes qui nous transportent et ceux qui nous agacent aussi. Aujourd'hui, avec Ivo Vanhove, qui est metteur en scène. Bonjour Ivo Vanhove.
Bonjour.
Merci d'être là alors que vous êtes couché tard. C'était hier la première de votre spectacle qui est donné ici à Avignon, The Fountainhead, d'après le texte de l'auteure américaine Ayn Rand. Alors vous êtes metteur en scène de théâtre, metteur en scène d'opéra aussi, metteur en scène adaptateur de films, on y viendra, on y consacrera un petit peu de temps. Vous dirigez depuis 2001 le Tonnel Group Amsterdam. Alors vous êtes né en Belgique, vous êtes flamand, mais vous allez faire l'effort de parler français. Alors on a quand même à côté de vous une traductrice en la personne.
Oui, parce que mon français, je parle, mais c'est horrible. Alors,
bah,
je comprends très bien le français, mais je vais essayer de parler alors.
Écoutez,
vous êtes là pour m'aider.
Voilà, Gillian Zerida est là pour vous aider, mais j'aimerais parler le flamand comme vous parlez le français, Ivo Vanhove, même si c'est horrible.
Je suis flamand, mais plutôt je suis belge.
J'ai dit belge, flamand.
Oui. Ok.
Ok. c'est toujours très compliqué cette histoire.
Oui, je sais.
Alors, vous adaptez, alors je le disais, donc là hier c'était la première de Ayn Rand, et j'avoue, Ivo Vanhove, qu'une des principales raisons, hormis votre grande œuvre, pour lesquelles j'avais envie de vous entendre pendant cette heure, c'est cette question de Ayn Rand. De mettre en scène ce texte de Ayn Rand, The Fountainhead, qui a été traduit en français sous le titre La source vive. Quelle idée étrange, Ivo Vanhove, de vous attaquer à ce roman de Ayn Rand.
L'idée m'est venue il y a 7 ans maintenant. C'est après la première d'un spectacle qui était aussi ici à Avignon, Les Tragédies romaines. Et alors, mon assistant, Mathias Moy, qui je respecte beaucoup, m'a donné ce livre, mais dans un pocket édition, horrible,
ouais.
Terrible. Et c'était 700 pages. Alors, j'ai pensé, OK. Et sur la première page, il a écrit, il faut que vous lisez ça maintenant.
Alors pourquoi ? Est-ce que vous avez compris pourquoi il vous demandait ça maintenant alors que vous étiez en train de mettre en scène ?
Après, j'ai compris.
Alors, expliquez-nous. Donc, vous étiez en train de représenter Shakespeare, ça ?
Oui, dans ce temps-là. Hein.
Voilà, c'est ça, à ce moment-là, 2008 ?
2007, oui.
2007. Et pourquoi votre assistant, alors que vous êtes en train de mettre en scène Shakespeare, vous pose sur la table, votre table de chevet, Ayn Rand, et vous dit, il faut que tu lises ça. Alors que ça n'a rien à voir. Enfin, Ayn Rand, c'est ce grand roman américain qui parle de deux architectes, qui est un éloge de l'individualisme, de l'égoïsme, du créateur seul contre tous, dans l'Amérique des années 20, par une auteure qui elle-même est russe, mais émigrée aux États-Unis, qui va devenir une sorte de penseuse de la droite libertarienne américaine. Pourquoi est-ce que tout ça, il vous met ça sur la table, Ivo Vanhove?
Vous avez dit presque toutes les raisons, mais je crois quand j'ai lu ça, parce que je ne connaissais pas Ayn Rand du tout, je ne connaissais pas ce livre, pas le contexte politique qui est né sur Ayn Rand comme auteur et comme politicienne, presque, je ne connaissais pas. Alors, j'ai lu le livre pur. Et j'étais, c'était pour moi, je savais seulement le mot en anglais, un page turner. On ne pourrait pas arrêter à lire.
Ouais.
Alors, les 700 pages, j'ai lu dans 2 jours.
Ah ouais.
Et pour moi, c'était comme un grand, idée de un grand roman d'idées. Sur l'idéalisme. Qu'est-ce qu'il faut faire comme artiste? Qu'est-ce qu'il faut faire comme citoyen dans une société? Est-ce qu'il faut vraiment suivre son idéal dans une manière extrême? Qu'il fait Howard Roark, un des jeunes architectes. Ou est-ce qu'il faut s'adapter, suivre la demande de la marché, ce qu'il fait l'autre architecte, Peter Keating? Et pour moi, ce sont des thèmes, il y a beaucoup plus de thèmes dans ce livre, mais ce sont des thèmes de base dans ce livre, dans ce roman. Et pour moi, ce sont aussi des thèmes qui sont aujourd'hui, pas seulement dans les États-Unis, mais aussi en Hollande. Je crois, en France, je connais pas la France comme vous, bien sûr, mais aussi en Europe, parce qu'on vit dans une Europe devient plus en plus extrêmement libérale. Le gouvernement se radicalise pas.
Disparaît petit à petit.
Disparaît. En Hollande, c'est le cas. Dans la Belgique aussi, un plus petit peu, je ne sais pas, mais aussi dans l'Europe. Alors, pour moi, ce roman est un roman qui parle des thèmes qui nous concernent maintenant.
Mais vous dites que Ayn Rand propose 2 modèles, donc celui de Peter Keating, qui est un architecte qui, lui, s'adapte au goût, aux demandes des clients, à la mode aussi esthétique du moment, et de l'autre côté, Howard Roark, qui, lui, au contraire, trace une ligne très personnelle, très égoïste, mais dans un sens qui est...
mais non, pas égoïste, individualiste.
Individualiste.
Un peu
oui,
différent.
Oui, d'accord. Oui. Mais en fait, vous dites comme si c'était sur le même plan, mais Ayn Rand, elle est très, très clairement en faveur de Howard Roark contre Peter Keating.
Elle a un mépris total pour Peter Keating, oui.
Et vous pensez, vous avez essayé de montrer qu'il y avait 2 voies possibles ou vous allez aussi dans le sens de il faut tracer sa route envers et contre tout?
Oui, parce qu'aussi dans le roman, Howard Roark, qui est pour Ayn Rand, comme elle s'appelle, l'homme idéal, c'est très difficile pour un acteur de jouer un homme idéal.
Mais il est pas mal en tant qu'homme idéal,
votre acteur. Il est très bien,
il est pas mal, ouais.
Oui, oui. Mais pour Ayn Rand, c'est très clair. L'homme idéal est Howard Roark et il faut vivre sa vie comme ça. Alors, pas faire de compromis, pas du tout. Moi, je crois que c'est vrai pour un artiste. Je veux toujours faire un spectacle extrêmement beau qui est totalement de moi. Et c'est l'expression totale de ce que moi, je pense sur la vie, sur le monde, sur tout. Je veux faire ça dans un style personne ne peut faire.
C'est votre idéal.
C'est ce que je veux. Hein.
Ouais.
Ça, c'est mon ambition. Et je crois dans ce roman, c'est très important que les artistes lient ce roman parce que moi, je crois que ça m'a inspiré beaucoup.
Ah ouais.
Mais comme citoyen dans une société, ça, c'est pour moi, personnellement, un petit peu différent. Je ne crois pas que l'individualisme total est la solution pour une société. Par la conséquence, et c'est aussi dans ce spectacle, ce roman, La Sous-Vive, n'est pas tellement politique. L'autre roman, je ne sais pas...
Atlas Shrugged. La grève, ça a été traduit en français.
La grève.
C'est un mauvais titre.
Oui, ça c'est un roman sur le capitalisme extrême. Ça c'est vraiment un roman politique. Mais dans ce roman, ce n'est pas seulement politique, ça parle de l'art, de la position de l'art dans une société. Mais à l'autre côté, on est aussi citoyen. Et à un certain moment, Howard Roark dit « Pourquoi payer des taxes ? Parce que moi je m'occupe de moi-même et vous, il faut que vous vous occupez de vous-même. » Et on n'a rien à faire avec l'autre. Il faut être soi-même totalement. Je crois que comme artiste, c'est vraiment une ambition qu'on doit avoir d'être totalement authentique.
Et comment, alors,
mais
comment
comme citoyen, voilà, je crois que c'est très important de vivre ensemble.
Alors comment vous faites pour conjuguer les deux? Parce qu'effectivement, la solution que propose Ayn Rand, c'est voilà, l'artiste est comme ça et il est, sa vie de citoyen est cohérente avec ça, donc refus de payer des impôts, etc., ligne tracée. Le problème, c'est comment vous faites pour conjuguer d'un côté donc un idéal artistique qui est l'individualisme, le s'asseoir sur soi et que sur soi, etc., et de l'autre côté une vie citoyenne qui doit prendre en compte les autres à la fois dans son idée esthétique et aussi dans sa vie de tous les jours. Comment c'est conjugable?
Quelle est la question? Comment je fais ça?
Et ouais, comment vous faites conjuguer l'un et l'autre? Parce que la proposition que fait Ayn Rand, c'est très simple, elle est tranchée.
Mais alors, moi je suis metteur en scène, j'ai une phrase, et avec la phrase je t'aime, on peut faire 1000 choses différentes. C'est seulement une phrase. Mm-hmm. Mais bien sûr, Ayn Rand, dans cette description qui sont autour des phrases, c'est, l'opinion de Ayn Rand est claire. Quand je prends seulement les phrases du livre, et moi j'ai fait ça parce que les phrases ne sont pas adaptées, ce sont vraiment des phrases de Ayn Rand, on peut faire ça avec un petit peu plus de nuance. Et ça, j'espère d'avoir fait. J'ai fait ça, je crois, avec mes acteurs. Et pour moi, c'était très important qu'il y ait un certain équilibre dans les personnages et qu'on peut penser aussi, mais cette personne, ils disent des choses vraiment fabuleuses maintenant. Mais dans l'autre scène, il était vraiment un connard. C'est dégueulasse. Aussi, Howard Roark, l'homme idéal, il... Quel est le mot en français? Rape.
Il viole.
Il viole une femme à un certain moment. Ce n'est pas. Mais dans ce show, c'est aussi compliqué parce que dans ce cas-là, en fait, la femme aime de faire ça.
Alors, je vous conseille de ne pas vous aventurer sur ce terrain-là.
C'est peut-être
on va faire voilà, on va dire ça. C'est dans Ayn Rand, voilà, bon, hein. Et puis voilà, hein, on laissera les gens juger. Mais
elle pense la même sur la sexualité que sur la société.
C'est qu'elle n'envisage les rapports amoureux que sous un rapport sadomaso, de toute façon, dans tous ses livres. Oui. Comment vous avez travaillé le texte? Alors ça, pour le coup, c'est proprement fascinant à voir. C'est-à-dire que c'est un texte qui fait à peu près 800 pages, The Fountainhead, qui est assez compliqué parce qu'il y a des intrigues qui viennent se mêler dans les intrigues, etc. Vous en faites un spectacle qui est certes assez long, puisque hier c'était 4 heures ou 4 heures et demie. Enfin, quand même, c'est
4
beaucoup.
4 heures.
4 heures. C'est quand même beaucoup plus court.
Intermission, hein.
Avec l'entracte. Mais c'est quand même beaucoup plus court. Comment vous avez travaillé ce texte? Comment vous avez... Vous notez, donc vous avez dit, j'ai prélevé, hein, c'est ça, vous avez prélevé des phrases de Ayn Rand. Mais comment vous avez fait pour arriver à une telle mécanique? Parce que c'est à voir comme spectacle, c'est proprement fascinant comme mécanique. Hein. Comment vous avez travaillé ce texte d'Ayn Rand pour arriver à ça?
Ça a pris beaucoup de temps. Hein. On a commencé il y a 2 ans. Il y a un homme qui a fait l'adaptation, son nom est Kuntachelet. Il a beaucoup fait des adaptations des romans parce que moi, je n'ai pas, c'était la première fois que j'ai fait ça sur scène. J'ai fait beaucoup de scénarios de films sur scène et des textes classiques et modernes, bien sûr, mais pas de romans sur scène. Je n'ai jamais fait ça. Chez les Belges, c'est Guy Cassirs qui est venu beaucoup, c'est mon ami, mais il a beaucoup fait ça. Alors j'ai pensé, il ne faut pas que je fasse ça aussi, parce que le pays est trop étroit pour ça.
Pour avoir déjà, il y a les Flamands, les Wallons, déjà c'est trop...
Mais alors, le problème était que c'est 800 pages.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'on fait? On a choisi les personnages qui sont intéressants pour nous. Et on a réduit les personnages du roman parce qu'il est, il est l'histoire des deux architectes, mais aussi, beaucoup, c'est comme Shakespeare, beaucoup des histoires à la côté de ça. Et on a réduit les personnages sur 10 personnages. Alors, ça réduit beaucoup. Et alors, dans le roman, il y a aussi... pas beaucoup, mais il y a des répétitions aussi, des scènes qu'on pense, il y a 2 de ça, on peut avoir 1 de ça, et on peut, on a le même émotion, la même idée sur scène. Alors on a réduit, et alors c'était 150 pages, quand j'ai commencé les répétitions, et pendant les répétitions, j'ai coupé encore 25 pages.
Ah oui.
Alors, c'est maintenant 125 pages.
Oui. Et jusqu'à quand vous vous autorisez de couper le texte? Est-ce que vous pouvez couper le texte jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille de la première,
oh,
voire
oui.
après
je,
la première
bah, je ne peux pas, mais je fais. Les acteurs, ils savent que ça vient. Pendant la répétition, je fais la pièce dans une chronologie. Je commence avec la scène 1, 2, 3, et alors je fais ça pendant des semaines et des semaines et des semaines, et alors on est à la fin. Et alors je fais un filage. Mais le filage, je fais seulement une semaine avant la première.
D'accord.
Ce n'est pas beaucoup.
Pourquoi? Pourquoi vous laissez si peu de temps?
J'aime cette... Et alors, je prends...
Vous aimez
relâche.
Cette quoi? Vous aimez cette quoi? Vous n'avez pas dit, vous
tension.
Aimez quoi?
Ah, attention, vous aimez... La tension qu'il y a là, parce que c'est rough.
C'est dur.
C'est, ouais, c'est dur. Hein.
It's rough. Still.
Rugueux.
C'est rugueux, alors, à ce moment-là. Et j'aime ça. On voit dans cette rigidité et dans cette rugueur, je vois le spectacle qui peut être. Et c'est très important que les acteurs sont libres alors. Je dis toujours aussi que quand la vidéo ne marche pas, quand la musique n'est pas là, il faut jouer. Go on. Et alors je fais le relâche. Deux jours.
D'accord.
Oui.
Et juste après le filage,
oui,
c'est dur, et puis après, pouf,
oui,
relâche.
Oui, relâche. Mais moi, je ne fais pas le relâche. Je vais alors discuter avec mon team, pas avec les acteurs. Et alors, on va penser, qu'est-ce qu'il faut pour le spectacle, pour le public? Est-ce que le spectacle est là comme on veut? Il faut, et alors ça c'est aussi une expression en anglais, mais on comprend ça, kill your darlings. Il faut kill your darlings, il faut tuer les choses qu'on
vous
a beaucoup aimées dans les répétitions, mais qui ne sont pas nécessaires pour le spectacle ou pour le public, pour vraiment avoir l'émotion vraie. Et alors, j'ai fait des coupures
drastiques,
extrêmes,
ah oui.
Mais on sait ça. Les acteurs savent maintenant, ils acceptent aussi parce qu'ils savent que je fais ça pour le mieux. Et je ne coupe rien quand un acteur ne joue pas bon.
Je ne comprends pas.
Quand un acteur peut jouer une scène merveilleuse et une autre scène pas tellement bon, alors je travaille avec lui.
Ah, d'accord. Vous ne coupez pas la mauvaise scène parce qu'il n'y arrive pas,
non,
d'accord.
Non, je coupe seulement
vous coupez la bonne.
Ce qu'on n'a pas besoin. ce procès, ça dure une semaine et je peux aussi changer des choses le jour de la première. J'ai changé tout le fin, pas tout le fin, mais des choses dans la fin du spectacle le jour avant la première.
Et est-ce que vos comédiens sont libres vis-à-vis du texte? Bon, là, ce qui est compliqué, c'est comme il y a des traductions avec des sous-titres, j'imagine que les libertés sont limitées. On voit à des moments, moi je ne parle pas le néerlandais, mais il y a des moments où on voit qu'il y a des petites différences, mais enfin, c'est peut-être dû simplement à la traduction. Mais est-ce que vos comédiens sont un peu libres? Parce que vous dites tout à l'heure, vous avez dit ils sont libres, etc. Mais ils sont libres de quoi?
Mais pas libres, on ne peut pas improviser. Hein, alors,
donc ils sont libres de quoi s'ils ne peuvent pas improviser? Ils sont libres de respirer.
Mais l'improvisation, je ne le fais pas du tout, aussi pas dans les répétitions. Or, il y a un texte, il y a des idées sur le texte, il y a des personnages, il y a une histoire. C'est ça qu'on doit raconter, pas pour soi, pour avoir un peu de joie avec l'autre acteur ou quoi.
Mais me regardez pas comme ça,
toujours
un méchant.
Mes spectacles sont toujours basés sur des textes, pas sur des idées visuelles seulement, ou pas sur les images ou quoi. Les images sont importantes, l'aspect visuel est très important, mais la base, pour moi, c'est toujours le texte.
Et est-ce que, vous disiez, Ayn Rand, c'est mon premier roman adapté. Est-ce que ça permet des libertés d'adapter un roman que ne permet pas un texte constitué théâtralement déjà, comme ce que vous avez fait avec Shakespeare, Ibsen, enfin tout ce que vous avez mis en scène?
À la fin, on a un texte comme le Shakespeare. Quand j'ai commencé les répétitions, c'était comme un texte théâtral.
D'accord. Est-ce qu'une langue, d'ailleurs, il y a une écriture qui est une écriture assez théâtrale? Parce qu'il y a beaucoup de monologues,
oui.
Beaucoup de...
Oui, mais j'aime ça.
Vous aimez les monologues?
J'aime les monologues longues. Ah, ouais. J'aime, par exemple, j'aime beaucoup un auteur américain, Eugene O'Neill. J'ai fait beaucoup de spectacles sur le texte de vie et c'est toujours trop long. J'aime ça. Parce que, alors...
Qu'est-ce que vous aimez? C'est bizarre d'aimer des choses trop longues.
Parce que c'est comme dans...
La vie?
Non.
J'essaie de
dire. Comme, oui, à la fin, c'est comme la vie. Et la vie, c'est comme un océan. On ne sait pas ce qui va passer. Je suis maintenant ici, j'ai des interviews après, mais je ne sais pas comment les interviews vont être. Et on ne sait pas ce qui est le futur. Et j'aime dans le théâtre d'entrer totalement dans un thème, dans des personnages, comme dans un océan. Et on ne sait pas où est l'eau. On voit l'horizon, mais c'est seulement de l'eau. On ne voit pas le pays qui est... J'aime ça. Mais je fais aussi des spectacles très courts, de 70 minutes. Hein. Ce n'est pas toujours très long. Mais j'aime aussi des... Alors, dans le livre de Ayn Rand, ce qui m'a intéressé et ce qui est très théâtral, ce sont les personnages, bien sûr, parce que ce ne sont pas des personnages qu'on connaît d'autres textes classiques ou modernes.
Parce que
ce sont des personnages très particuliers. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de textes dans le théâtre sur l'architecture, sur des architectes. Seulement, il y a seulement une pièce de Ibsen, Baumeister Solness. Je ne le connais pas en français. Solness. Ah, ok.
Vous avez des idées? Ah, le constructeur.
Ok, écoute.
Il y a des gens qui connaissent le théâtre dans la salle, heureusement.
Oui, écoute. Mais il n'y a pas beaucoup. Et ce pièce ne parle pas vraiment d'architecture et de l'architecte. Maintenant, c'est vraiment, et ça m'a beaucoup intéressé, d'aussi, par exemple, Ramzi Nasser, qui joue Our Talk, je lui ai demandé de prendre des leçons pour dessiner, pour vraiment dessiner comme un architecte. Il a vraiment étudié ça tous les jours. Il a fait des études avec quelqu'un qui peut faire ça. Et maintenant, il fait des dessins avec.
Mais c'est très impressionnant.
Oui. Mmh. Et alors, c'est live. C'est toujours live. Il y a un petit truc, je ne vais pas. Mais ok.
Oui, il y a un petit truc, c'est qu'il y a de la transparence, il y a un calque.
Je ne dis pas.
Avouez, Ivo Onov, qu'il y a un calque.
Non.
Bon, ok, il n'y a pas de calque. Donc, chaque jour, Véronique Lamandour, qui réalise cette émission, fait un petit montage sonore qui lui semble évoquer, qui pour elle évoque l'invité du jour. Voici ce qu'elle a trouvé pour vous, Ivo Van Hove.
Thank you.
Ivo Van Hove, est-ce que vous avez reconnu des petits morceaux de tout ça?
Pas du tout.
Bon, c'est pas pour vous piéger du tout. Hein.
Oui.
non, parce que ce sont des bandes originales de films de Bergman, Cassavetes et Pasolini. Alors il y a la bande originale du Jardin d'Éden, Un enfant à temps, Sourire d'une nuit d'été, Théorème ou Porcherie. Et ça nous permet de vous interroger sur quand même un aspect très étrange de votre travail, parce que bon, là, vous avez adapté et mis en scène un roman de Ayn Rand, mais vous avez comme particularité, hormis de monter des grands textes du répertoire théâtral bien connu, vous adaptez des films au cinéma, enfin pas au cinéma justement, au théâtre. Ce qui est une pratique très étrange. D'abord, d'où vous est venue l'idée, un jour, de dire, tiens, je vais mettre en scène un scénario?
J'aime beaucoup le cinéma. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, 17, 18 ans, j'étais dans le cinéma tous les jours. Mmh. Et j'ai habité dans une ville en Belgique pendant 20 ans. C'était l'envers. Et alors là, on a des clubs de films où on pouvait voir tout le film, tout l'œuvre de Luciano Visconti, et l'autre semaine, tout l'œuvre de Hans de Ziberberg, tout l'œuvre de Marguerite Duras. J'ai vu tout. Et j'ai beaucoup aimé. J'étais vraiment un homme du cinéma.
Alors pourquoi? Alors je vais vous poser la question à l'envers. Pourquoi est-ce que vous êtes allé vers le théâtre? Vous avez réalisé deux films. Enfin, c'est rien par rapport à votre œuvre théâtrale. Alors pourquoi, si oui, c'était le cinéma, votre univers, pourquoi vous êtes allé vers le théâtre?
Il faut réfléchir sur ça, je ne sais pas.
Vous n'êtes pas posé la question, jamais?
Non, non, j'aime ça. Mais c'est comme peut-être vous. Moi, je n'aime pas du tout d'aller dans une musée. Je n'aime pas du tout.
Ouais.
Parce que quand j'entre dans un musée, immédiatement, je suis fatigué. c'est trop de beauté pour moi. Trop, trop.
Et donc,
alors, maintenant, j'ai travaillé à Madrid cette année, mm-hmm, pour faire un opéra, à l'Opéra de Madrid, et bien sûr, il faut aller...
Au Reina Sofia.
Au Prado. Hein. Mais alors, j'ai demandé à un collaborateur de moi, qui connaît le Prado très bien, je lui ai dit, je vous donne une heure, et je veux voir des choses vraiment particulière que vous pensez, pour moi, que c'est très bien de voir ça. Il a fait ça parfait, et j'ai beaucoup dans ma tête maintenant. Ce n'est pas que je n'aime pas la peinture, j'aime la peinture beaucoup, mais trop de peinture est trop pour moi.
Non, vous avez
mais
un
trop
art.
Le cinéma n'est pas trop pour moi.
Que j'ai pas
je
compris.
Peux
Excusez-moi.
Voir trois films dans un jour.
Mais alors, oui, mais vous répondez toujours pas à ma question. Vous avez un art du détour qui est assez merveilleux, mais vous répondez pas à ma question. Pourquoi est-ce que si
pas.
Vous aimez autant le cinéma et vous pouvez voir tant de films, vous êtes allé faire du théâtre?
Mais je ne sais pas. Mais j'ai fait un film pour la télé, un film vrai, et que j'ai découvert que dans le cinéma, comme metteur en scène, on est vraiment Dieu.
Et ça ne vous plaît pas, ça?
On est Dieu parce que on fait le montage. Et dans le montage, j'ai découvert, par exemple, quand j'ai fait mon film qui s'appelle Amsterdam, il y a un jour que j'étais vraiment, comme metteur en scène, c'était rien. J'ai fait mon boulot très mauvais, moi je croyais. Et dans le film, ça c'est l'autre chose. Tout le jour, pour la scène qu'on fait, c'est la première. Parce que ça ne revient pas. Quand on a beaucoup d'argent, oui, on peut refaire quelque chose, mais pas en Europe. Alors, dans un jour, il faut vraiment finir cette scène, et c'est la première de cette scène.
Ouais.
Mais la scène que j'ai faite ce jour-là, j'ai haï, et quand j'ai fait le montage, j'ai pensé qu'il faut couper ça. Mais alors, j'ai commencé de monter cette scène, et c'était ma scène préférée du film.
Vous êtes un être paradoxal, Ivo Van Hove.
Non, mais parce que c'est dans le film, l'acteur ne doit pas jouer bien. On peut faire dans le montage tout ce qu'on veut comme metteur en scène. Je peux prendre une petite pièce de cette interview il y a 10 minutes et je peux le monter avec une pièce de maintenant. Et ça semble une phrase. Dans le film, c'est possible. Dans le théâtre, pas du tout. Alors, on a l'autonomie des acteurs parce qu'ils sont sur scène et comme metteur en scène, on ne peut pas faire pas du tout quelque chose. Mais dans le film, on est roi du spectacle du film, Dieu.
Alors, Ivo Van Hove, on est censé parler un peu de texte dans cette émission. Et justement, je me disais, dans le travail de l'adaptation au théâtre d'un film, c'est le support textuel, il est quand même très différent. C'est-à-dire que c'est très différent d'adapter une pièce de Shakespeare où il y a une densité de langue qu'on connaît, un scénario de Cassavetes. C'est un texte assez pauvre, un scénario de film, non?
Les textes de Jean Cassavetes sont pauvres.
Oh non, oula.
Excusez-moi, ça n'est pas du tout le cas.
D'accord. Je vais dire autrement, ça n'a pas la même richesse, enfin pas la même forme de richesse qu'un texte de Shakespeare.
C'est une richesse différente.
Alors c'est quoi la différence de richesse?
La richesse est dans le subtexte, dans le sous-texte, on dit en français, je crois. Ouais, ouais. C'est dans le sous-texte, la richesse. Et Jean Cassavetes était... Mais j'ai fait du film au théâtre de Jean Cassavetes, de Ingmar Bergman. Ouais. J'ai fait In India Song, qui n'est pas un texte film, c'est un... Marguerite Duras, texte... théâtre-film, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai fait ça. J'aime beaucoup Marguerite Duras. J'ai fait Ingmar Bergman, j'ai dit ça. J'ai fait Luchino Visconti. Alors, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont fait des films sur des textes vraiment compliqués, des personnages vraiment compliqués. Mais pourquoi faire ça sur le théâtre? Il y a deux raisons de base pour moi. L'un est que j'ai trouvé dans ce texte, parce que mes spectacles ne sont pas des adaptations des films,
mais des scénarios.
Ce sont des adaptations des textes du film, pas du film, des films.
Vous ne voyez pas les films?
Non.
Donc vous n'avez pas vu tous les films?
Mais j'ai vu il y a 30 ans, ou 20 ans. D'accord. Mais par exemple, j'ai fait Opening Night, John Cassavetes, je n'ai jamais vu. C'est un dramaturge qui m'a donné ça, j'ai lu ça, j'étais immédiatement amoureux de ça. Mais la première raison est que le thème que j'ai trouvé dans ces textes-là, je n'ai pas trouvé dans des textes théâtre. Par exemple, j'ai fait un texte merveilleux de Ingmar Bergman, Cri et chuchotement, en français.
Ça s'améliore là, c'est 33 minutes, vous avez parlé presque couramment, la fin de l'émission sera parfaite, vous n'avez plus d'accent.
Mais ça, ce n'est pas vraiment un scénario. Et ce qu'Ingmar Bergman a toujours fait, il a écrit à son acteur et à son team technique et artistique une longue lettre. Et c'est une lettre de 30 pages dans ce cas. Et il a décrit ce qu'il voit, ce qui sont les personnages, ce qu'ils disent à l'autre. Alors, il y a beaucoup plus d'informations dans cette lettre de ce qu'il fait dans le film. Et ce film, ce texte parle de la mort. J'étais très intéressé comme metteur en scène, comment on met en scène la mort sur scène, dans un sens que c'est vrai, pas vrai dans un sens de réalité, mais vrai comme sensation.
Alors, comment on fait?
Il faut voir.
Ouais, c'est facile.
Par exemple, je fais une chose, mais peut-être que je peux donner un exemple qui éclaircit ça. Dans la lettre, j'ai découvert qu'il décrit, ça s'appelle l'histoire d'une femme, Agnès, qui est en train de mourir. Et à un certain moment, elle va mourir. Et il a décrit dans la lettre la scène de la mort deux fois. Dans le film, il y a seulement une scène. Mmh. Et moi, j'ai fait sur scène une femme qui mourit.
Qui meurt.
Qui meurt deux fois. Moi, j'ai pensé de faire ça une fois comme je pense que c'est horrible. Mmh. Vraiment une bataille contre la mort. Et l'autre, comme on espère que ça va être. Alors, avec des personnes qui me, comment on dit ça, qui m'embrassent, qui sont douces avec moi, qui sont là pour moi. Et, alors c'est fait. Et ça, c'était pour moi comme metteur en scène et comme homme dans l'art, très important aussi de mettre en scène des choses extrêmes comme ça. Mm-hmm. Et ça, je trouve dans les textes de film. L'autre est que je suis le premier pour faire ça.
Ouais.
C'est comme quelqu'un fait la première représentation théâtrale de Hamlet. Mm-hmm. Moi, j'étais le premier metteur en scène qui a fait Opening Night de John Cassavetes sur scène.
Comme Hamlet était déjà pris, vous êtes allé
oui.
là, d'accord.
Oui, et alors, ce n'est pas pour être le premier.
Hein. Non, pas du tout.
Non, pas du tout, hein, parce que ce
n'est pas votre genre, ça. Ouais, non.
Pas ambitieux du tout.
Non, vous n'êtes pas ni ambitieux, non, ni être Dieu, ça vous...
Mais c'était aussi parce qu'il faut inventer un monde théâtral, parce qu'il n'y a rien à comparer. Personne n'a fait ça. Alors, voir le film, on peut faire ça, mais ça n'est pas du tout utile, parce qu'il faut vraiment inventer un style de jouer, mais aussi des décors, parce que dans le théâtre, c'est plutôt l'unité du lieu. Hein, et dans un film, on peut monter de Cairo à New York, on peut monter ça dans une seconde. Ce n'est pas possible dans le théâtre. Le théâtre est un monde de l'imagination.
Ouais. Est-ce que du coup, Ivo van Hoff, ça explique le sentiment qu'on a quand on voit, et en particulier la pièce dont la première a été donnée hier, The Fountainhead, l'impression qu'on a de voir un plateau, alors qui est moins d'ailleurs un plateau de cinéma peut-être qu'un plateau de série télé. Mais, oula, c'est pas négatif. J'aime beaucoup les séries télé. Il y a des grandes séries télé. Mais de voir quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'architecture et un espace qui est plutôt de ces arts-là, quoi, où ça circule très vite, les personnages qui entrent et qui sortent, avec des montages comme ça qui sont proches de montages visuels, des fondus, etc. Oui. Est-ce que du coup, ça explique cette espèce d'impression qu'on a qu'au théâtre, il y a aussi chez vous de la reprise de ces arts cinématographiques ou
J'ai pas compris tout ça.
Mais moi non plus vraiment. Allez, on va passer à la suite. Alors, tu étais en train de parler, je me disais, mais qu'est-ce que
vous avez compris?
Alors, si vous essayez de mettre les gens de votre côté, c'est vraiment pas honnête.
Non,
vous voyez, deux secondes de traduction et c'est bon.
Ce décor n'est pas comme un TV studio de TV, télévision. Non, le concept est que c'est un atelier d'un architecte. Dans la première, à Amsterdam, en juin, dans le Holland Festival, et c'était une coïncidence totale, mais un des meilleurs architectes, c'était une femme d'Hollande, était vraiment sur la première rang. Et il a fait un tweet, ça en fait maintenant, pendant le spectacle. C'est comme je suis dans la maison, dans mon propre atelier. Alors pour nous, c'est un atelier de l'architecte. Mmh. C'est un espace pour créer, pour dessiner, d'accord, pour travailler.
Et vous êtes sur Twitter donc pendant le spectacle et vous voyez les tweets, c'est ça que
vous non moi je non non
ah,
je,
c'est pas vous
je fais
d'accord.
pas ça ah, je fais
peur.
Pas ça je fais d'accord. pas de Facebook, je suis pas là et pas de tweets.
Ok, bon, mais on va parler un peu de technologie tout à l'heure.
Je parle
on l'a vu toujours chaque jour Véronique Lamandour elle fait une petite plongée dans des bases de données de son ou d'images et aujourd'hui elle a tapé texte et opéra sur YouTube. Ivo van Hoff, Quand on tape sur YouTube texte et opéra, bizarrement, on tombe sur cet extrait. C'est une petite fille qui chante. Pardon, on n'entend plus rien, mais j'espère qu'on entend. Ah voilà, on entend. J'espère qu'on entend à l'antenne. C'est Amira Vilgaen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette jeune fille. Elle est candidate au The Voice Pays-Bas. Vous voyez cette espèce de... Bah oui, c'est ça YouTube, c'est la culture populaire. Et elle chante donc l'Ave Maria de Bach. Ce qui, avec une orchestration qui laisse un peu à désirer, mais peu importe. C'est drôle pour ouvrir une petite partie où on va parler de la musique, parce que c'est quand même un aspect aussi important de votre travail. Et d'abord, puisqu'on est toujours essayé de cerner cette question du texte, de ce qu'on fait du texte, vous avez parlé de ce que c'était que le scénario de film en disant ce que je ne pouvais pas imaginer, que ça pouvait être aussi riche en sous-texte qu'une pièce de théâtre, qu'un texte de théâtre, et un livret d'opéra. C'est quoi comme texte de théâtre, comme texte?
Oh, mais moi, je suis aussi metteur en scène de l'opéra. J'ai fait pas beaucoup, mais j'ai fait
une tétralogie quand même.
Oui.
C'est comme pas rien.
Oui,
c'est.
Ouais. Quand on a fait ça, on sait beaucoup sur l'opéra.
Ouais.
Et j'ai fait à Lyon, par exemple, j'ai fait Macbeth Verdi il y a 2 ans. J'ai fait des choses à Bruxelles, La Clémence de Tito de Mozart, qui est mon opéra préféré, Idoménée de Mozart. J'ai fait là aussi à Bruxelles. Alors
pourquoi bon.
Mais quand on me demande pour faire un opéra, je ne jamais vais, je ne lis pas seulement le livret. Je ne lis pas séparé immédiatement.
Ah, d'accord.
Je cherche une registration de l'opéra qui est bon. Et alors, j'écoute.
D'accord.
Avec le livret. Ça, je fais. Et alors, je décide si je peux faire ça ou pas. Parfois, il faut un peu réfléchir, parfois pas. Parce que la musique, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. Comme metteur en scène, je ne pleure presque jamais. Presque jamais je pleure dans mon propre spectacle, dans le spectacle que j'ai fait moi-même, parce que je sais tout ce qu'ils font. Mais dans l'opéra, je fais.
Vous pleurez devant votre propre mise en scène
parce que c'est plus que j'ai mis en scène.
Ah.
Parce que dans l'opéra, on répète toujours avec le piano, hein, pendant des semaines, 3 semaines. On répète seulement avec un piano, avec le chef d'orchestre qui est là, s'il est là, et avec le metteur en scène. Et alors, l'orchestre vient. Et quand l'orchestre vient, quelque chose de miraculeux est là, qui est plus large que j'ai fait. Par exemple, quand j'ai fait Götterdämmerung, Crépuscule des dieux, il y a le moment où Siegfried meurt, est tué, et alors il a cette beau musique, ça s'appelle en Allemagne Trauermusik.
C'est-à-dire
Non, Trauer.
Deuil. La musique du deuil.
Musique du deuil. La musique est tellement... beau, ce n'est pas beau, c'est aussi cruel, c'est plein tears,
de larmes.
De larmes, plein de tout. Et quand j'ai vu ça, et aussi ce que j'ai fait à ce moment-là, parce que normalement on ne fait rien, mais moi j'ai fait des choses là, je ne peux pas raconter, mais avec la musique, c'était plus que ça.
Est-ce que
la musique, c'est vraiment... Il faut qu'on mette en scène qu'on n'est pas intéressant dans la musique. Il ne faut pas faire du théâtre, de l'opéra, pas du tout. Je suis un peu fatigué maintenant.
Non, mais c'est. Mais est-ce que c'est valable pour toutes sortes de musique? Parce que là, vous citez un orchestre, mais est-ce que quand vous mettez en scène, par exemple, une comédie musicale type Angels in America, vous avez le même effet qui est produit par la musique?
Angels in America.
But what's musical comedy? C'est quoi
Angels in America, c'est pas une
comédie. Angels in America, non, ça c'est un texte.
Il y a pas, c'est pas une comédie musicale, Angels in America.
Non,
pas
du tout. Oui, ah, il y a un opéra basé, moderne basé sur Angels in America. Mais moi, j'ai fait.
Ah, vous avez fait le texte, d'accord.
J'ai fait le texte. Okay. Oui. Non. Mais dans l'opéra, il faut comme metteur en scène, il faut être conscient du fait que il y avait un metteur en scène avant moi. Mm. Et qui est ça? Ce n'est pas le chef d'orchestre, c'est le compositeur. La composition, il y a tellement beaucoup d'indications qu'on ne peut pas ignorer. Et parce que quand on ignore ça, on fait des bêtises. Mm. Il faut vraiment être dans la musique, et on peut faire ça de manière différente, hein, bien sûr. Mais okay. Mon idole dans le théâtre, ouais, et aussi dans l'opéra est Patrice Chéreau. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait avec le cœur. Pour moi, ce sont des leçons. Quand j'étais jeune, je n'avais pas d'argent, mais je suis venu à Théâtre de Saint-Mandier pour voir des choses là. Pour moi, c'était très important. Ça m'a influencé. Mon théâtre est totalement différent, je crois. Mmh. Mais, pas dans le sens physique, mais mon physique, c'est différent. Et je ne peux pas me comparer, mais il m'a inspiré beaucoup. Et comme il peut faire des mises en scène, par exemple, dans la solitude des champs de coton, j'ai vu toutes les versions plusieurs fois. Mm-hmm. Mais la dernière version, quand il a joué lui-même, quand il a 5 ans, je crois, et il a dansé avec Pascal Grégory, aussi.
Ah ouais.
Pleuré. Mm. Oui.
Et il nous reste très peu de temps, et Ivo Van Hove.
C'est le maître des mises en scène, Patrice Chéreau. C'était le maître des mises en scène, de la mise en scène, Patrice Chéreau. Et aussi pour ce qu'il fait avec le cœur, personne ne peut faire dans le monde.
Alors je disais qu'il nous reste très peu de temps, mais il y a un aspect que je voulais aborder avec vous parce qu'il est, important dans votre travail de mise en scène, c'est la question de la technologie ou de la technique. C'est intéressant parce que non seulement vous utilisez, vous, un matériel technologique important, mais aussi dans certaines mises en scène, vous le mettez sur scène. Vous mettez sur scène des objets, alors ça peut être un iPad, ça peut être un téléphone portable, ça peut même être Internet, hein, je crois que c'est dans le Misanthrope où les gens pouvaient venir sur scène, consulter, etc. Qu'est-ce que vous avez comme rapport à ça? Ça vous paraît impossible aujourd'hui de ne pas jouer avec ces outils-là?
Oui, moi je veux faire du théâtre pour les gens d'aujourd'hui, sur les thèmes d'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui. Et le vidéo, les microphones de la musique moderne, toutes les choses comme ça, le tweet, ce sont les instruments, les choses qui sont d'aujourd'hui. Et pourquoi ne pas utiliser mais pour moi, c'est la même chose que quand les Grecs, il y a 2000 ans, ont utilisé les masques pour jouer. Parce que le masque, ce n'est pas seulement une expression faciale, mais c'est aussi comme un microphone, hein, le masque dans
le théâtre. La voix,
ouais. C'est la même chose. Ils ont utilisé ça et maintenant on a des instruments technologiques de la technologie de nouveau. Pourquoi ne pas utiliser? Mais pour moi, ce sont des instruments pour exprimer quelque chose. J'ai fait aussi beaucoup de spectacles sans vidéo, sans microphone. Pour moi, j'utilise seulement quand je sais qu'ils sont nécessaires pour raconter les choses que je veux raconter dans ce spectacle.
Alors Ivo Van Hove, là pour le coup c'est vraiment presque terminé et je vais vous demander de répondre à un petit questionnaire.
Oh là là, c'est le plus questionnaire.
Vous, si vous ne répondez pas, vous dites je ne sais pas, ce n'est pas très grave.
Ok, je vais faire ça.
Alors voilà, un petit questionnaire, Ivo Van Hove. Voilà. Ça a l'air de vous enchanter comme idée. Je suis ravi de vous soumettre à ça, cette espèce de torture.
On a aussi
parce
ça
que
sur notre website, on a aussi ça. Mais j'ai évité de faire ça sur mon propre website.
Alors, voilà. Parce que vous n'êtes pas chez vous, là. Oui, hein, okay. Vous allez répondre à mes questions. Alors, un texte sans cesse relu, que vous relisez continuellement.
Oh. Je n'ai pas.
Oh.
Je n'ai pas.
Ok, d'accord. Okay. Il n'y a aucun texte que vous relisez continuellement.
Mais
non, vous avez le droit, hein, ok.
Non.
Un texte que vous connaissez par cœur?
Non, pas du tout.
Aucun texte par cœur?
Non. Non, okay. aussi de Fountainhead maintenant, il faut toujours. Je n'ai pas de texte. Je ne peux pas faire une citation.
D'accord.
Ou quoi.
Ah ouais.
Pas
okay.
du tout.
Non, c'est marrant.
Je ne peux pas faire ça.
Un texte que vous aimeriez mettre en scène ou adapter, mais vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous ne sentez pas assez fort pour ce texte.
Non, mais.
Et ne dites pas, il n'y a aucun texte.
Non. Non, il y a un, ah. mais je ne sais pas en français comment on dit ça. C'est un texte Eugene O'Neill, Iceman Comet.
Ah, et pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas là au texte?
Parce que c'est comme un grand cœur.
Ah.
Ce sont 17 acteurs sur scène qui boivent seulement.
Ah, oui.
Mais c'est un texte merveilleux, grand. Et mes acteurs toujours dit il faut faire ça, il faut faire ça. Comment maintenant? C'est ok, peut-être l'année prochaine.
Un texte que vous détestez au point d'être sûr de ne jamais le mettre en scène?
Non, ça je n'ai pas. J'ai une fois fait sur scène, mise en scène, un texte Jean Genet, un texte pas très connu, Splendid.
Ouais.
Et alors, j'étais totalement déprimé pendant les répétitions parce que les textes de Jean Genet sont tellement noirs.
Mmh.
C'est tellement romantique, mais lourd, dans un sens lourd. À la fin, j'ai aimé beaucoup et c'était un spectacle brutal, total. Mettre en scène pendant 6 semaines, c'était torture.
Ah, bon.
Torture mentale.
Comment est rangé votre...
Parce que c'est comme un prison. C'est comme Racine, Jean Genet. C'est comme un langage qui est comme un prison.
Okay.
Mais j'aime beaucoup Racine, comme j'aime beaucoup Genet.
Comment est rangée votre bibliothèque, Ivo Van Rove?
Comment
est rangée? Il y a un ordre, pas d'ordre?
Oui, je suis... oui, j'ai un ordre.
Ah, et alors c'est quoi votre ordre?
Je peux dire, quand j'étais très jeune, on a des bandes dessinées, Suske et Wiske, ça s'appelle, c'est très connu, c'est, Tintin.
Tintin.
Rintintin.
Bon, allez, peu importe, parce qu'il y a...
Si oui, ça, et mon petit frère, il y a... moi, je suis... 2 ans plus âgé que lui. Et moi, j'ai fait une bibliothèque de bandes dessinées. On a le numéro 1, 2 sur 50 ou quoi, je ne sais pas. Et il faut me demander le numéro 45, s'il vous plaît, aujourd'hui. Alors, ceci, j'ai écrit ça, il a...
D'accord. Vous êtes quelqu'un de souple.
Je suis très ordonné, je suis très organisé.
D'accord, ok. Est-ce que
control
vous écrivez...
freak.
On a compris que vous étiez control freak, ouais. Est-ce que vous écrivez encore à la main?
Oui.
Dans quelles circonstances?
Oui, j'ai besoin de ça. Oui, tout.
Tout? Vous écrivez...
Ce que j'ai écrit, c'est dans ma tête. Ce que j'ai fait dans le computer, ce n'est pas dans ma tête.
Ah ouais. Est-ce qu'il y a un texte dont vous remettez sans cesse la lecture à plus tard? Ok. Catalepsie de Ivo Van Rove. Un texte que vous avez honte de ne pas avoir lu?
Oui, tous, parce que je ne lis pas beaucoup de romans, pas du tout, parce que je n'ai pas de temps pour faire ça. Et alors, je n'ai pas lu Dostoïevski.
Aucun.
Oui,
c'est
horrible.
Ah ouais, honte. Mais
alors, oui, décision faite, je fais ça.
Ben, ça, c'est bien, parce que d'habitude, les gens disent « Oui, j'ai pas fini Proust, ouais, mais vous n'avez rien lu Dostoïevski, c'est bien.
Ouais. »
Un texte dont vous parlez souvent, alors que vous ne l'avez pas lu?
Non.
Fontainehead, on va s'apercevoir qu'il
n'a jamais lu
Fontainehead.
Non, j'ai lu et plusieurs fois.
D'accord. Bon, merci Yvonne.
J'ai dit que je suis très mauvais à cette chose-là.
Non, vous êtes, c'est bien, c'est bien. Vos silences sont éloquents. Comme chaque jour, on ouvre pour finir une petite fenêtre à la lutte que mènent ici à Avignon et partout en France les intermittents précaires, chômeurs et intérimaires. Donc chaque jour, un texte, un titre aujourd'hui, Éloge du silence.
Voici ce que déclarait un cheminot à l'Assemblée Générale Unitaire des Intermittents, Précaires et Chômeurs le 16 juin 2014 à la Grande Halle de la Villette. Je suis conducteur de train sur la ligne C du RER. En grève. On est venu à votre manifestation ce jour pour vous faire un salut fraternel. On salue votre lutte. Dans tout le pays, il y a des gens qui se lèvent et qui disent que ce n'est plus possible. On doit se parler de travailleur à travailleur et d'usager à spectateur. La culture est un service public comme nous. Et quand on n'est pas là, ils se rendent compte que l'on n'est pas là. Le gouvernement se suicide politiquement, uniquement pour répondre aux intérêts de classe. C'est nous qui créons des richesses. Il faut faire primer nos intérêts sur les leurs. À ceux qui veulent détruire la culture et les droits sociaux partout, les cheminots répondent « résistance, grève tous ensemble ». Nous faisons corps avec les grèves des postiers, des cheminots, des personnels hospitaliers. On appelle ça la convergence des luttes. C'est un vilain mot pour remplacer fraternité, qui serait plus approprié. Mais surtout, au-delà des revendications ô combien légitimes de défense du service public, nous nourrissons un rêve secret. Nous sentons que pour que l'état des choses change, il faut arrêter le mouvement. Arrêter de courir derrière son train pour bosser. Arrêter de répondre aux courriers. Arrêter d'être branché à son téléphone. Arrêter d'être toujours prêt à répondre à une hypothétique offre d'emploi. Arrêter de devoir répondre tout de suite, maintenant. Il faut de l'immobilité. Des radios qui ne passent que de la musique. Des télés sans images. Des théâtres où les artistes fassent résonner le silence. Alors oui, comme après un silence dans une conversation, nous pourrons reprendre le dialogue. Car finalement, quand à Matignon on nous dit « Nous sommes impuissants, ce n'est pas nous qui décidons » et que nous répondons « Derrière le guichet à Pôle emploi, on nous dit la même chose, c'est l'ordinateur qui décide. » Alors, il faut débrancher l'ordinateur. Éloge du silence, interlutant numéro 33, spécial été 2014. Venez à notre rencontre. Nous tenons une permanence tous les jours à la Maison Manon, aux 12 places des Carmes à Avignon, de 10h à 19h, ainsi qu'au Cloître Saint-Louis, de 11h à 15h. Informons-nous, parlons-nous.
Voilà, The Fountainhead est donné donc au Festival d'Avignon jusqu'au 19 juillet. Le texte original d'Ayn Rand a été traduit en français sous le titre La Source Vive et il doit être disponible dans la librairie qui est juste en face de nous, ici dans la cour de l'Université Pasteur à Avignon. Merci à Gillian Serrida pour la traduction. Ça a été finalement assez détendu. Hein, ça va hein. Demain, on parlera du texte qu'on négocie, du texte diplomatique, des notes, des traités. Et on en parlera en compagnie du diplomate Pierre Morel. C'était Des idées sous les platanes. Une émission préparée par Geneviève Méric à la technique aujourd'hui. C'était Florent Layani, Georges Thau, Tar Bouklifa et David Anaès. Chargé de production Jean-Christophe Perrin. Réalisation Véronique Lamandour. Dans quelques minutes sur France Culture, vous retrouverez On ne parle pas la bouche pleine, Alain Crugère. Bon après-midi et à demain.